Bon après-midi à tous. Je vais vous demander de vous lever avec moi pour la lecture du passage d'aujourd'hui qui se trouve à nouveau dans l'épître à Philémon. Philémon, pour vous éviter de chercher trop longtemps, ça se trouve entre Tite et Hébreux. Particulièrement aujourd'hui, on va traiter des versets 4 à 7, mais on va débuter notre lecture à partir du verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, la dernière fois qu'on a considéré cette épître, on avait exposé les trois premiers versets. On a regardé l'adresse et les salutations de Paul à Philémon et au reste de l'assemblée. Et on a vu comment Paul a jeté l'ancre avant d'aborder son sujet. Ces salutations n'étaient pas banales, on l'a répété plusieurs fois, mais étaient plutôt revêtues de l'Évangile et fondaient ce qui allait suivre dans sa lettre. On y a vu que la fibre même et l'arrière-plan de sa requête à Philémon étaient ce qu'il a souhaité au verset 3, en fait, soit la grâce et la paix données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et comme à son habitude, l'apôtre Paul continue l'introduction de sa lettre avec une prière pour ses lecteurs. Et dans ce cas-ci, comme ses salutations n'étaient pas futiles, eh bien sa prière ne l'est pas non plus. On commence à être habitué là maintenant à dire ça, n'est-ce pas? Mais les thèmes qui se trouvaient dans l'arrière-plan des trois premiers versets se trouvent aussi dans le reste de son introduction et découlent naturellement, en fait, c'est-à-dire la grâce, la paix, la foi, l'amour, le fruit de l'esprit. Et comme le commente Richard Phillips, de la même manière que nos prières devraient pourvoir le fondement pour ce qu'on fait chaque jour, la prière de Paul, dans les versets 4 à 7, pourvoit la clé théologique de cette lettre-là. Et c'est bien vrai, parce que la prière de Paul vient boucler son introduction, sans trop s'y précipiter. Et il vient donner, en fait, les derniers matériaux de sa requête. Et on l'a vu combien c'est facile, n'est-ce pas, de précipiter une introduction, de passer tout droit et de manquer des choses importantes. Peut-être parce que nous-mêmes, lorsqu'on introduit un courriel, un appel, un message, une salutation, quoi que ce soit, on le fait en vain. C'est peut-être pour ça. Mais Paul ne le fait pas en vain. Vraiment, il vient poser les matériaux pour sa requête. On peut donc préparer notre texte d'aujourd'hui en trois parties. Premièrement, la reconnaissance de Paul, versets 4 et 5. Deuxièmement, sa pétition, verset 6. Et troisièmement, le témoignage de Philémon, verset 7. Alors, première partie, versets 4 et 5, la reconnaissance de Paul dans sa prière. Le verset 4, où on lit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières », est traduit de cette manière-là, en fait, ce qui peut nous laisser comprendre naturellement qu'à chaque fois que l'apôtre prie, il mentionne Paul et Philémon, il mentionne Philémon et rend grâce. Toutefois, on doit savoir, et je fais déjà une petite parenthèse ici, que nos Bibles de Genève ou les traducteurs de nos Bibles de Genève ont pris une décision ici, de traduire de cette manière-là. Et parfois, c'est nécessaire dans la traduction. Parce que, évidemment, la langue originale du Nouveau Testament est plus complexe que le français. Et on peut faire face à plusieurs options qui seraient légitimes de traduction. Pour exprimer, en fait, de manière le plus adéquate, qu'est-ce que l'auteur voulait dire. Et bien que dans la majorité de notre traduction, vraiment la grande majorité, c'est très juste, parce que faut le dire, le français aussi est une langue complexe, c'est quand même des choses qui peuvent arriver, d'où l'importance de considérer la langue originale. Donc, il faut bien observer le contexte, même dans la traduction. Et bien qu'on peut comprendre ce qu'on vient de lire au verset 4, je crois que la traduction du texte serait plus fidèle de cette manière-là. Je rends toujours grâce à mon Dieu lorsque je me souviens de toi dans mes prières. Ou je rends continuellement grâce à mon Dieu quand je fais mention de toi dans mes prières. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la ESV en anglais le traduit, ou même plusieurs exégètes comme Calvin l'ont toujours compris. Mais je le mentionne parce que ça vaut la peine de le mentionner, parce que pour cette raison-là, le verset 4 ne veut pas nécessairement dire qu'à chaque fois que Paul élevait un mot de prière, il mentionnait Philémon. Ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas ça que le texte dit. Mais sans aucun doute, il l'a fait très souvent. Paul était un homme de prière dévoué. Il priait pour toutes les églises et pour un très grand nombre de personnes. On le voit bien en considérant toutes les introductions à ces lettres, mais différents passages du Nouveau Testament où il mentionne prier pour des frères et sœurs. Et donc, on peut en déduire qu'il avait assurément une vie de prière très structurée, sachant même que Paul était quelqu'un de très structuré et la quantité phénoménale de personnes pour qui il priait. Donc, sachant à quel point il était bien fourni, ce contexte-là justifie le fait de comprendre que Paul disait plutôt que ce qu'il faisait continuellement, et c'est là où je vous mène, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait mention de Philémon dans ses prières, il commençait toujours par une action de grâce à Dieu pour lui. Et cette notion-là rejoint vraiment l'ensemble du Nouveau Testament. On le voit même dans le Notre Père, et je dirais même ce que les puritains ont enseigné sur la prière. Continuellement, on voit action de grâce avant tout, avant de mener nos pétitions au trône de la grâce. Même le Notre Père commence par « Notre Père qui es aux cieux », on confesse Dieu avant, on l'élève lui avant de remettre nos besoins entre ses mains. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une prière de quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Et on le voit ici, avec l'écrit de Paul. Et on voit aussi que Paul, dans le fond, mettait bien en pratique son exhortation aux frères, comme il dit aux Thessaloniciens, de prier sans cesse. Il allait toujours au trône de grâce. Toujours. Il ne priait pas que pour lui. Il n'avait pas une vie de prière centrée sur lui-même. Mais il élevait continuellement des actions de grâce et des pétitions pour ses frères et sœurs. Et ça, c'est intéressant à noter, parce que Paul aurait été le premier à dire, il l'a dit, je suis le premier dans tous les pécheurs, le premier même à demander de la prière, on le voit à travers le Nouveau Testament, il en demande, il n'hésite pas. Mais pourtant, c'est dans tous les apôtres, c'est probablement lui qu'on regarde plus comme un exemple. Mais il n'hésite pas à le dire à quel point il a besoin de prière. Donc, sans doute, reconnaissant sa propre incapacité, même étant Paul, l'apôtre des païens, priait beaucoup pour lui-même, c'est sûr. Reste qu'il ne vivait pas une vie de prière centrée sur lui-même. Il allait toujours au trône de la grâce pour ses frères et sœurs, toujours. Il vaut aussi la peine de noter, comme c'est Calvin qui remarque ça, que l'apôtre prie également pour ce dont il rend grâce. Ça aussi, c'est intéressant. Quand on rend grâce, on rend grâce pour quelque chose que Dieu a déjà fait. Right? C'est quelque chose d'accompli ou quelque chose qu'il est en train d'accomplir. Mais maintenant, ici, Calvin dit que l'apôtre prend le temps de rendre grâce, mais de prier pour ce qu'il a rendu grâce. Et pour le citer, il fait ça parce que même les plus parfaits, tant et aussi longtemps qu'ils vivent dans ce monde, n'ont jamais tant de mérite à être félicités au point de ne pas avoir besoin de prière, afin que Dieu leur accorde de persévérer jusqu'à la fin, mais pareillement de progresser au jour le jour. Et ça rejoint exactement ce dont on a mentionné la dernière fois, concernant le verset 3. Philémon est bénéficiaire de la grâce et de la paix divine en Christ. Mais il a quotidiennement besoin de cette grâce et paix aussi. Et de la même manière, Paul a sujet à rendre grâce à Dieu pour Philémon, mais il a tout autant besoin de lui soumettre de nouvelles requêtes. Philémon est un bon frère, fidèle. Il porte du fruit, mais il a tout autant besoin d'intercession. Il a encore besoin de sanctification, de conformer sa vie à l'Évangile. Et Paul poursuit ensuite, verset 5, en disant qu'il rend grâce à Dieu pour Philémon à cause de sa foi au Seigneur Jésus et de son amour pour tous les saints. Ici aussi, le texte original nous présente un ordre de mots particulier. Ça parle de l'amour et la foi de Philémon pour le Seigneur et tous les saints. L'ordre est inversé. Ce n'est pas la foi pour le Seigneur et l'amour pour tous les saints, mais bien l'amour et la foi de Philémon pour le Seigneur et tous les saints. Et en fait, c'est une emphase sur l'amour et la foi de Philémon, sur cette expression-là bien en particulier. Comme s'il disait qu'à chaque fois qu'il prie pour lui, il rend grâce parce qu'il a été informé de l'amour et la foi qui guident toujours son comportement. L'amour et la foi, ou son amour et sa foi, sont centrales. Que peu importe ce qu'il fait, c'est guidé par l'amour et la foi. Alors, Paul rend grâce pour l'œuvre que Dieu fait déjà en son frère, mais il le remet entre les mains du Seigneur à nouveau, sachant qu'il doit et qu'il sera assurément sanctifié. Sur la base de l'Évangile qui est revêtu dans ses salutations, Paul rend grâce pour la participation véritable de Philémon et fonde sa demande envers lui d'agir en fonction de l'amour et de la foi qu'il a pour le Seigneur et tous les saints. Et Philippe commente ici en disant qu'un engagement à la foi et l'amour est plus important que les bénéfices personnels de toute décision particulière. Et c'est bien connecté avec ce qu'on a mentionné encore une fois la dernière fois concernant les trois premiers versets. On a dit qu'une obéissance qui a mûri dans la grâce de Dieu, donc qui est motivée par l'amour et la foi en Christ, vaut toujours plus qu'une simple obéissance formelle ou quelconque bénéfice personnel qu'on peut obtenir. Et Philémon, rappelez-vous, le sujet de cette épître, c'est, de la part de Paul, c'est d'exhorter Philémon à reprendre Onésime, qui était son esclave, qui peut-être Philémon considérait le garder comme son esclave. On ne le sait pas, en fait, s'il le considérait à ce moment-là. Mais l'apôtre l'a fortement exhorté et lui a rappelé l'Évangile qui en est bénéficiaire et que ça devrait informer sa façon de réagir à ça. Et il n'a pas voulu le contraindre pour lui dire « Fais ce que je te demande. » Mais il a voulu chercher la motivation en lui, l'amour et la foi qu'il a déjà manifesté, et de la mettre encore une fois à l'œuvre. Et que ce qu'il espérait peut-être gagner en conservant Philémon, dans ces liens de l'esclavage, ce gain personnel particulier, peut-être la facilité qu'il a à avoir pour certaines choses, où Philémon l'avait certainement volé, donc peut-être juste de récupérer ces biens-là, tout ça vaut rien comparé à un engagement à la foi et l'amour envers spécialement un frère. Comme l'apôtre dit en Galates 5, 6, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, c'est-à-dire aucune œuvre qu'on peut faire, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Il vient donc exprimer sa reconnaissance envers Dieu, parce que l'amour et la foi sont en fait un fruit de l'Esprit donné par grâce. Ils jaillissent de la fontaine de grâce et de paix que Dieu seul est. Donc là, on voit comment ce qui est en train de tisser le lien avec sa bénédiction dans sa salutation. Et qu'est-ce qui rend déjà grâce? Bénéficiaire de grâce et paix, tu as obtenu la foi. Parce que tu as été aimé, tu aimes et tu te dois d'aimer. Donc, vous voyez le lien qu'il est en train de faire. Et il poursuit ensuite sa prière avec une pétition maintenant. Verset 6, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » On pourrait aussi réorganiser l'ordre des mots dans le français pour mieux le comprendre, parce qu'on pourrait aller dans deux avenues. Mais il est en train de dire qu'il demande que la participation de Philémon à la foi soit efficace en reconnaissance de toute espèce de bien, ou à reconnaître toute espèce de bien en eux pour la cause de Christ. Paul veut en fait que son frère Philémon croisse en grâce et paix obtenue en Christ, qu'il croisse donc nécessairement en foi et amour, et que cette croissance-là soit reconnue par ses actes. Comme Matthew Henry le dit, l'amour et la foi, bien que dans le cœur ils soient cachés, ils sont connus par leurs effets. Alors l'apôtre joint une pétition à ses actions de grâce afin que le fruit de la foi et de l'amour de Philémon soit de plus en plus visible, au point où leur communication pousse les autres à reconnaître toutes bonnes choses qui sont en lui et dans sa maison envers Jésus-Christ. Ou comme Calvin disait, tout ce qui est bon en nous fait connaître notre foi. La pétition de Paul pour Philémon est donc au centre même de cette lettre-là. C'est la clé de théologie pratique de l'Épître. C'est une foi efficace, une foi qui est agissante par l'amour. 1 Jean 3,14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est donc une foi qui n'est pas stérile, un amour qui n'est pas faux. Mais c'est bien la foi salvatrice qui est exprimée par des œuvres d'amour. C'est la foi qui, par l'action du Saint-Esprit, sanctifiant même nos relations interpersonnelles, vient en fait redéfinir nos concepts de ce qui est bon en lumière du caractère de Dieu. Comme Philippe l'a dit, à ce moment-là, la question, c'est plus quel est mon droit légal ou relationnel. On voit la futilité de cette question-là. À la place, nous demandons comment est-ce que la grâce de Dieu pour moi et ma communion avec cette personne m'appelle à penser et agir. Paul veut que Philémon, c'est encore Philippe qui dit ça, Paul veut que Philémon et nous pensions et agissions comme si ce que nous professons par rapport à Jésus et la grâce souveraine et salvatrice de Dieu est réellement vrai. Jacques dit dans son épître, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ça devrait nous percer. Et c'est ça dont on parle dans l'Épître. Est-ce qu'on commencerait maintenant à prêcher un salut par les œuvres? Loin de là. On est sauvé par grâce seule, en Christ seul, au moyen de la foi seule. Mais être affranchi de la condamnation de la loi ne fait pas de nous des antinomistes, des gens qui rejettent la loi. La loi n'était pas bonne autrefois et mauvaise aujourd'hui. La loi de Dieu est bonne, mais c'est l'homme qui est mauvais. Et combien l'homme est mauvais? La loi révèle le caractère de Dieu et nous montre donc qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Les œuvres de l'homme mauvais ne sont que des œuvres mortes. Mais ceux qui sont révélés par la loi, le caractère de Dieu, sont de bonnes œuvres. Comme notre Seigneur nous l'a résumé, c'est avant tout d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous sommes son ouvrage, nous dit Éphésiens 2:10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors comme Jacques y répond, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Alors, si tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu, si tu as été réconcilié au Père par le Fils, si tu as obtenu la paix en Christ, si tu professes, ou si je dirais même, tu oses professer foi en lui, et tu oses dire que tu l'aimes, que fais-tu maintenant? Est-ce que ça transforme ton intelligence? Est-ce que ça circoncit ton cœur? Est-ce que ça l'informe ta manière de penser et d'agir? Quand tu fais face à un conflit, est-ce que tu cherches à obtenir le déçu en brandissant ce dont tu crois avoir droit? Est-ce que tu essaies de gagner ton point en revendiquant tes droits légaux, sociaux, relationnels, name it, n'importe quoi? Ou cherches-tu à agir de façon à honorer Christ? Cherches-tu ta propre gloire, la gloire de Dieu? Penses-tu que le Sanhédrin avait le droit de lever la main contre Jésus? Bien sûr que non. Penses-tu que Jésus, lui, avait le droit d'appeler une légion d'anges? Bien sûr que oui. Mais il a bu sa coupe en obéissance. Parce que cette coupe-là servait de manière infiniment plus grande la gloire de Dieu. Il a bu sa coupe. Alors, est-ce que ta foi est agissante dans l'amour? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle produit en toi un comportement qui honore le Seigneur? Persévères-tu au moins, dans ces choses-là? Persévères-tu à aimer ton Dieu et ton prochain? Cherches-tu à penser et agir selon la grâce, l'amour condescendant qui est venu vers toi et qui t'a été donné? Et c'est pour ça que Paul prie pour son frère et compagnon d'œuvre. Que sa foi soit efficace pour la cause de Christ, au point où elle est reconnue, qu'elle est palpable, par tout moyen et au milieu de tous. Que toute espèce de bien découle de la mise en application de sa foi, et que ses fruits soient manifestes. Que ce ne soit pas qu'en privé, dans ma chambre fermée, seulement, mais que l'amour qui découle de la foi et qui est informé par la grâce soit efficacement présent en lui, autour de lui. Et Paul vient maintenant conclure sa prière en soulignant le témoignage de Philémon et il vient exprimer sa confiance dans sa disposition. Verset 7. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Il exprime sa confiance par le fait qu'il témoigne voir déjà en Philémon ce pour quoi il prie. Et en effet, il se réjouit et en est consolé parce que la foi et l'amour de Philémon portent déjà une efficacité. Le cœur des saints est tranquillisé. Le mot qu'on traduit ici par « cœur » est en fait littéralement ses « entrailles »,« tripes », qui, pour les Grecs, ça faisait référence au siège même de leur affection. C'est la profondeur de leurs affections, le plus profond de leur être. Et on pourrait traduire « cœur » de cette manière-là, on pourrait le comprendre comme ça. C'est là où même les mots sont difficiles à exprimer. Et on y voit ici combien la communion fraternelle est en fait un moyen de grâce béni par le Saint-Esprit, parce qu'elle est pour la cause de Christ. En Christ, on a la grâce. En Christ, on a la paix. C'est en Christ que notre foi est posée et on peut aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Par la foi mise en application, par l'amour fraternel, le cœur des saints a été apaisé, rafraîchi. Les frères et sœurs de Philémon ont été réconfortés par sa générosité de cœur. Il avait même ouvert sa maison pour l'Église, par ses bonnes œuvres, par l'encouragement et l'édification de leur âme. Et Philémon et l'Église de Colosse sont un même corps en Christ, unis. Donc l'affection qu'ils portaient envers l'Assemblée était palpable en toute espèce de biais. Et le siège de leur affection a même été impacté. Et à vrai dire, on peut difficilement trouver quelque chose de plus encourageant que la communion avec un frère ou une sœur qui peut s'identifier avec nous dans nos joies, comme dans nos tristesses, dans l'allégresse, comme dans le chagrin. C'est vraiment un moyen béni de Dieu. Et quand la communion fraternelle pousse un croyant à rendre grâce à Dieu pour l'amour qui lui est démontré par le biais de ses frères et sœurs, là le Seigneur est honoré. Une foi efficace, lorsque ses fruits mènent un enfant de Dieu à louer son Père céleste plutôt que la main du frère ou de la sœur qui l'a béni. Elle est efficace quand elle pose premièrement le cœur et ses affections sur Christ et deuxièmement fait croître ses affections pour son frère. Il y a une dimension ici, verticale, horizontale. Elle est efficace quand elle pose premièrement le cœur et ses affections sur Christ et deuxièmement fait naturellement croître ses affections, son amour pour ses frères et sœurs. Elle est efficace lorsqu'elle conforme l'homme à l'image du Seigneur. Et on y voit bien cet exemple-là au verset 7, où même Paul se réjouit et est consolé au sujet de l'amour de son frère envers les autres. Ça, c'est de l'amour fraternel. Il se réjouit de l'amour de son frère envers les autres. Ça, c'est honorer Christ en aimant son prochain comme soi-même, que de se réjouir autant de la bénédiction d'un autre. Là, si on ne dit pas « Amen », comme plusieurs disent, on dit « Ouch ». Amen. Et pareillement, ce verset-là m'a fait penser, il y a quelques mois en arrière, une sœur de l'Assemblée m'a parlé du fait que lorsqu'elle apprend que d'autres sœurs se sont vues et ont pu communier ensemble, que plutôt que d'être jalouse, elle s'en réjouit fortement. Et je ne sais pas si elle disait ça de manière 100% honnête ou si c'est qu'est-ce qu'elle se disait qu'il faut qu'elle croie, mais moi je la crois, j'assume que c'est vrai qu'est-ce qu'elle me disait. Et dit en toute simplicité, j'ai trouvé ses propos magnifique. Parce qu'en fait, elle revêtait un cœur qui aime ses sœurs comme elle-même, qui se réjouit de leur bénédiction en s'oubliant soi-même. Et l'exemple de cette sœur-là, comme l'exemple de Paul, sont vraiment beaux à constater. Parce qu'ils sont à l'exemple du Christ qui, lui, aime sans attendre en retour, se donne pour le bien de son épouse. L'époux qui se donne pour son épouse, qui le fait sans attendre rien en retour, qu'il est prêt à donner sa vie pour son épouse. C'est un amour fraternel à son comble, ça. Donner sa vie pour son épouse. Ça, c'est à l'image du Christ. Et de manière analogique et proportionnée, c'est un peu la même chose envers les frères et sœurs. Le fait de s'oublier soi-même, de chercher la croissance, la sanctification de son frère, de sa sœur, même si ça veut dire que tu n'es pas dans l'équation. Et c'est pour ça que je parle du mariage en ce moment. Parce que autant l'épouse que l'époux, dans notre cas, l'époux n'est pas Christ, ce n'est qu'analogique. Autant l'épouse que l'époux honore Dieu lorsqu'il porte ou elle porte ses intérêts vers son époux, son épouse, et cherche sa croissance, sa sanctification. Pensez à l'époux qui nettoie, qui sanctifie, qui purifie sa femme par l'eau de la parole. Et que, peut-être bien souvent, autant un que l'autre, va faire des choses, si c'est pour l'honneur et la gloire de Dieu, qui ne seront jamais remarquées, qui ne sera pas notées, mais que c'est par pur amour, parce qu'on veut voir l'autre croître. Et c'est la même chose entre frères et sœurs. On y voit donc que, dans la prière de Paul, en faveur de Philémon, tous les matériaux d'exhortation pour sa requête sont là. L'apôtre prie pour un frère qui porte déjà du fruit, pour qui le témoignage est déjà établi. Un frère qui connaît la grâce, la réconciliation, l'amour de Dieu, qui professe la bonne doctrine et qui la met même en pratique. Mais pour un frère qui a néanmoins besoin d'être encore sanctifié, conformé à l'Évangile. Et ça devrait vraiment nous exhorter à nous regarder dans le miroir, en fait. À faire face à nos manquements et failles de caractère. Et à s'en remettre, en fait, entièrement à Dieu. Ça devrait nous exhorter à mettre en œuvre notre salut, sachant que c'est Dieu qui pourvoit le vouloir et le faire. Désirant, maintenant, vivre pour Dieu, l'honorer dans toutes nos voies, l'exemple de Philémon devrait nous encourager à toujours plus mortifier notre péché. Même ceux qui demeurent peut-être encore dans nos angles morts. Comme Philémon, en fait. Et, naturellement, surtout aujourd'hui, en 2026, on risque d'oser penser, « Ouais, mais là, péché de ce sens-là, ouais, j'ai pas ça dans mon angle mort, quoi. » On serait surpris. Le problème est toujours qu'on connaît pas assez notre cœur. Le cœur est plus tortueux que toute autre chose. Qui peut le connaître? On devrait donc venir au pied de la croix, au trône de la grâce, priant à Dieu, comme David au psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sachant que Dieu connaît mon cœur, plus que je ne le connais moi-même, ça devrait premièrement me faire trembler. Et sachant ça, je dois me rendre à lui, parce que je suis son ouvrage. Je dois me remettre entre les mains du potier, parce que ma vie est Christ, je lui appartiens. Et je ne veux pas autre chose que sa présence. Je confesse que c'est lui le cep, que moi je suis le sarment. Je dois demeurer en lui. Sans quoi, en fait, je ne peux même pas porter de fruits. Je ne peux même pas le considérer. Alors, observons-nous nous-mêmes. Est-ce que j'ai un péché dans mon angle mort? Est-ce que j'ai un péché que je reconnais et que j'y tiens encore? Il faut mortifier ce péché-là. Abandonne-le au pied de la croix. Confesse-le. Tu ne manques pas d'opportunité. Confesse-le. Retourne à l'Évangile. Vois la majesté, la grandeur, la magnificence du Christ, la valeur ineffable de son sacrifice, qui est tout autant actuel aujourd'hui qu'il était il y a 2026 ans. Cours en fait à lui. Je dirais même, je plaiderais avec toi en fait. Vois à quel point la nécessité pour toi d'être sanctifié et de porter du fruit est importante. Tu oses dire que tu aimes Dieu? Ok, suis ses commandements. Suis ses commandements. Meurs à toi-même. Il n'y a rien en toi, si ce n'est de lui qui va demeurer. Ta chair et ses désirs sont destinés à la destruction aussi, si tu ne te repentes, si tu n'es sanctifié. Cours au Christ. C'est pas parce qu'il y a 26 ans ou 30 ans ou même un an, tu as fait une belle prière, te repentant, disant « Seigneur, je t'accepte dans ma vie », que tu es régénéré. Même si tu es régénéré, tu penses que ça finit là? Satan a réclamé Pierre pour le froment. C'est quoi la différence entre Pierre et celui qui l'a trahi? Il y avait un intercesseur. Il s'est repenti. Et il est devenu l'apôtre qu'il était. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu ne peux pas porter de fruits si tu ne demeures pas en lui. Il est le cep. Il n'y en a pas d'autre. Les plus belles de tes œuvres sont des œuvres mortes s'ils sont hors de lui. Ils sont pires que des vêtements souillés. Mais je rends grâce à Dieu le Père qui sauve toutes ses brebis en son Fils et qui les préservera et rendra assurément parfaites par l'Esprit, l'œuvre qu'il a commencée en eux. Père éternel, je te rends gloire et je te rends grâce. Sachant, Seigneur, qu'en le Fils, nous avons tout. Qu'en moi, il n'y avait rien de bon. Je ne suis que poussière. Mais tu as daigné m'aimer, m'accorder ta grâce, me réconcilier, m'accorder ta paix, me donner la foi, m'aimer pour que je puisse aimer, t'aimer toi, aimer mon prochain, aimer mon épouse, aimer mon enfant, honorer mes parents, aimer le frère ou la sœur qui pourrait m'offenser, aimer mon ennemi même. Et Seigneur, je reconnais qu'en moi, que dans ma propre nature pécheresse, il n'y a rien de ça que je peux faire. Je confesse donc que je ne peux qu'être en toi. Je ne peux pas me séparer du cep. Et Seigneur, t'aimant aujourd'hui, voulant vivre pour toi, ne voulant qu'être dans ta présence, je te prie de sonder mon cœur et de continuer ton œuvre que tu as déjà commencée. Enlève encore une fois les racines rémanentes du péché en moi et accorde-moi de porter du fruit. Parce que maintenant, j'observe ses œuvres, j'observe la loi. Et je ne la regarde plus comme quelque chose qui me condamne, mais je vois la beauté. Parce que ton caractère est présent. Maintenant, je veux t'honorer. Mais même si maintenant j'ai ce désir, je sais que je ne peux rien faire sans toi. Viens en aide à ton serviteur. Viens en aide à tes enfants ici présents. Exhorte leur cœur. Relève-les. Continue à agir en eux par ces moyens de grâce que tu as bénis. Et Seigneur, qu'on puisse entendre à ton jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Au nom de Jésus. Amen.